Le vainqueur de ce match gagnera l'Euro. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
À Madrid et à Paris, il est midi 10, fin de ce journal.
Et à Bordeaux aussi, il est midi 10. Merci beaucoup RFI pour ce journal. Vous écoutez le plat de résistance sur la clé des ondes. Et nous, ce midi, on essaye d'y voir un petit peu plus clair dans la situation politique qui s'ouvre devant nous, situation politique et institutionnelle, avec cette nouvelle Assemblée nationale et ces nouveaux élus. Que peuvent-ils faire? Que peut faire le nouveau Front populaire? On en parlera avec notre invité Julien Giudicelli. Avant ça, on commence avec quelques infos complémentaires au journal de RFI. Et toi, Léa Perron, salut Léa.
Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
Après ces élections, que vont devenir les grands projets inutiles?
Et en particulier le projet de ligne à grande vitesse Bordeaux-Dax-Toulouse. Le collectif LGV Non Merci organise une réunion publique ce soir à Bègles pour informer sur le lancement de l'enquête publique environnementale sur les AFSB, les fameux aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux. Cette enquête devait avoir lieu à partir du 24 juin. Elle a été décalée par la préfecture et ne commencera que le 15 juillet, pour se dérouler donc en plein été jusqu'au 13 août. Le collectif LGV Non Merci déplore ce calendrier et invite à la fois les habitants et les habitantes et les élus à se positionner sur le sujet en participant à l'enquête. Et on reviendra sur le sujet demain midi dans notre émission. La réunion publique ce soir, elle, a lieu à partir de 19h à la salle de Mussonville à Bègles.
À l'approche des JO qui auront lieu cet été à Paris, plusieurs syndicats du groupe ADP qui gère les aéroports de Paris appellent à la grève.
Les syndicats réclament, je cite, une gratification pour l'ensemble du personnel et dénoncent une dégradation des conditions de travail. La direction du groupe ADP, quant à elle, a annoncé verser une prime uniquement à une partie du personnel. Les syndicats dénoncent des méthodes de division et réclament des compensations pour l'ensemble du personnel. D'après eux, l'entreprise dispose des ressources pour répondre aux demandes légitimes des salariés et de leurs représentants et évoque des dividendes confortables des actionnaires. Un mouvement de grève est annoncé dans les aéroports de Roissy et Orly pour le 17 juillet prochain. À la SNCF et à la RATP, des mouvements de grève similaires ont eu lieu ces derniers mois et ont abouti à la mise en place de primes pour les salariés de ces deux groupes.
Une question maintenant, qui assure le service d'ordre du Rassemblement National à Bordeaux ?
Rue 89 Bordeaux a mené l'enquête au QG du Rassemblement National, boulevard Georges V à Bordeaux, après les résultats du premier tour des législatives. Plusieurs des hommes présents arboraient un brassard avec les initiales DPS, qui renvoie selon Rue 89 Bordeaux vers deux entités. La première, le département protection sécurité, qui est le service d'ordre historique du Rassemblement National. Et le deuxième, la société DPS pour Dracar Protection Sécurité, créée en 2007. Le premier a été créé en 1985 par un ancien membre de l'OAS, organisation terroriste d'extrême droite, qui a longtemps défendu la présence française en Algérie. Plus qu'un service d'ordre, il s'agirait aussi d'un service de renseignement du Front National, actuellement Rassemblement National. Il fut responsable de plusieurs dizaines d'incidents et de violences commises contre les opposants politiques au FN entre 1987 et 1999. La société DPS, elle, a été fondée par Arnaud Lagrave, militant d'extrême droite. Des photos le montrent aux côtés de militants d'extrême droite à Bordeaux, notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes, gants renforcés aux mains, il faisait face à des groupes antifascistes. Contactée par Rue 89 Bordeaux, la société dément sa présence au soir du premier tour, invoquant un rachat de l'entreprise et donc elle ne serait plus en lien avec Arnaud Lagrave. Elle ajoute que qu'il s'agit d'une usurpation de l'identité de son entreprise. Arnaud Lagrave était notamment associé à Diédéric Meynier, fondateur du Tout Atis Clan, qui se présente comme une association de bikers. Révélé en 2020 par Le Pavé Brûlant, le club abrite en réalité plusieurs adeptes de la mouvance néo-nazie locale. Un de ses membres, Sébastien Butel, élu au conseil municipal de Floirac et candidat local RN, apparaît sur une vidéo avec comme tatouage une rune d'Odal. Il s'agit d'un symbole utilisé par la 7e division SS, connue pour ses atrocités commises contre les populations civiles des Balkans durant la Seconde Guerre mondiale.
Et puis le site d'extrême droite Réseau Libre a publié hier, lundi, des menaces de mort à l'encontre de personnalités de gauche, tout en dévoilant leurs adresses.
La semaine dernière, ce même site d'extrême droite avait publié une liste de 98 avocats et avocates, je cite, à éliminer. Ces derniers ont été pris pour cible après avoir signé une tribune contre le Rassemblement national. Parmi les nouvelles cibles du site, Alexis Corbière, Manuel Bompard, Yann Brossard, Rachel Kéké et Yacine Brouzou, avocats engagés contre les violences policières. La tribune, supprimée depuis, était intitulée, je cite, « Laissez les 95% de connards crever, mais faites-vous plaisir ». L'auteur, qui était sous pseudonyme, dénonce les résultats du second tour des législatives. Il précise, je cite, que pour neutraliser ses cibles, un bon couteau de cuisine, voire une arbalète, voire un manche de pioche suffit. Face à cette violence et ces menaces, Yacine Bouzrou a porté plainte lundi auprès du parquet national antiterroriste. Yann Brossat, quant à lui, sénateur PCF de Paris, a assuré avoir fait un signalement à la ville de Paris.
Et puis ce soir à Bordeaux, un agenda, un moment important, une assemblée générale de toutes les AG ouverte à tous est prévue. Elle est notamment appelée par l'Assemblée générale féministe de Gironde qui invite à s'organiser collectivement, à élaborer ensemble une stratégie pour faire advenir le monde que nous voulons. Le rendez-vous, il est donné à partir de 18h15 à la salle Sonté. C'est dans le quartier Belsier, derrière la gare, précisément 47 rue de Sonté. Les informations, elles sont à retrouver sur la page de l'Assemblée Générale Féministe de Gironde. Merci beaucoup Léa pour toutes ces infos. 12h16 sur la clé des ondes. On revient sur cette situation politique inédite, en tout cas qui semble être inédite et qui nous surprend et dont on ne sait pas trop vers où on va. J'accueille pour cela un invité, Julien Giudicelli. Bonjour Julien.
Bonjour.
Tu étais déjà venu nous parler, je crois, au moment des contestations de la réforme des retraites et des moyens légaux, constitutionnels de contester cette loi. Tu es maître de conférences en droit public et spécialiste notamment du droit constitutionnel. On va revenir avec toi sur tout ça. Avant ça, je donne quand même, redonne les résultats pour ce qui concerne la Gironde, résultats de ces élections législatives sur l'ensemble de ces 12 circonscriptions. Thomas Cazenave, macroniste, qui était ministre délégué au compte public, est réélu dans la première circonscription. Nicolas Thierry, l'écologiste, réélu dans la deuxième. Loïc Prud'homme, de la France Insoumise, réélu dans la troisième circonscription. Alain David, également réélu sur la quatrième. Il est, lui, membre du Parti Socialiste. Là où ça change, c'est sur la cinquième, dans le Médoc, où c'était un député du Rassemblement National qui est battu par la PS Pascal Gault. Idem sur la sixième, Marie Récal reprend la circonscription, elle est membre du PS et avant elle c'était un élu macroniste. Sébastien Saint-Pasteur est élu sur la 7e circonscription autour de Pessac, il est lui aussi membre du Parti Socialiste. Sur le bassin d'Arcachon, c'est Sophie Panonacle, la macroniste, qui est réélue. Sophie Mette du Modem, réélue dans le sud de Gironde. Florent Boudier, macroniste, réélu dans le Libournais. Edwige Diaz, c'est la seule élue RN donc, dans cette nouvelle assemblée pour la Gironde. Elle avait été élue dès le premier tour dans la Haute-Gironde. Et puis pour terminer, Mathilde Feld de la France Insoumise qui remporte la 12e circonscription, l'Entre-deux-Mers, qui la remporte de peu face au Rassemblement National. Ça fait donc au total 4 élus PS, 4 élus de Ensemble, 2 de la France Insoumise, 1 écolo et 1 du Rassemblement National. Au niveau national, justement, c'est plus compliqué puisqu'il y a encore une discussion en ce moment même à Paris sur qui siégera, quel député siégera dans quel groupe à l'Assemblée nationale. On rentrera peut-être tout à l'heure dans le détail, Julien, mais en tout cas, ce qu'on peut dire a priori, c'est qu'il y aurait un groupe du Nouveau Front Populaire avec plus de 190 députés, 193 députés probablement. Ensemble aurait 165 députés. Les Républicains en auraient 39 plus 16 divers droites, donc ça ferait 55 élus de droite, et puis le RN 126 élus plus les 17 qui sont des anciens des Républicains, ce qui porte un total à 143 élus d'extrême droite. Julien Giudicelli, quand tu vois cette nouvelle condition de l'Assemblée nationale, c'est quoi ta première réaction? Tu dis que ça va être le bazar, ça va être compliqué.
Tout d'abord, j'ai pas les mêmes petits chiffres, hein, mais à quelques siège près, là j'ai les
ouais, ça évolue en ce moment même, je crois, parce qu'on ne sait pas encore où vont siéger voilà. les uns les autres.
Mais j'ai les chiffres du ministère de l'Intérieur, bon, par rapport aux divers, que ce soit les divers gauche ou les divers droite. Est-ce que ça va être, comment dire, le bazar, hein, comme tu le disais? Je crains que oui, parce que, première chose, personne n'a la majorité absolue. La majorité relative du nouveau Front Populaire, donc si l'on additionne le NFP en propre et la gauche ou les divers gauches, dont par exemple les dissidents ex-LFI comme Alexis Corbière, ça nous fait effectivement 195 sur 577. Donc il faut presque, il aurait fallu presque 100 sièges de plus pour accéder à la majorité absolue. Mmh. Il faut savoir que la première fois dans l'histoire de la Ve République où il y a eu majorité relative, c'est lors du second septennat de François Mitterrand, avec donc comme Premier ministre qui a gouverné 3 ans, Michel Rocard, et il lui manquait quelques dizaines de sièges. La seconde fois, c'est donc il y a 2 ans, où les troupes de Macron étaient à 40 sièges, et là, on est à une centaine de sièges.
Donc, manquant.
Centaine de sièges manquants pour arriver à la majorité absolue, encore une fois, qui est à 289 sièges. Donc,
c'est pas la même chose qu'une vingtaine ou une quarantaine, là, ça devient une marche.
C'est absolument différent. Alors, on parle d'ingouvernabilité. Effectivement, là, j'ai entendu sur la matinale de France Inter Yaël Braun-Pivet, qui
était la présidente
de l'Assemblée nationale sortante, qui d'ailleurs réclame de nouveau le siège du perchoir, qui a une importance symbolique. Hein. Par ailleurs, c'est le 5e personnage officiel de l'État dans le protocole, et qui prétend à une alliance entre PS et divers droits. Centre-droit. Je classe plutôt ensemble dans le centre-droit. Donc là, effectivement, on arriverait à une majorité absolue, où on serait proche d'une majorité absolue avec les troupes d'ensemble, soit le Modem, Renaissance et l'UDI.
C'est-à-dire ça fait 165 pour ensemble. Si on y ajoute les 65 du PS, on arrive à 270. Il faudrait encore aller creuser, je ne sais pas, au PC, 19 quelques écolos.
PC, ça m'étonnerait quand même que le PC s'allie avec le Modem, Renaissance et l'UDI. Ça m'étonnerait fortement. Alors il y a un discours d'ailleurs qui était pendant la campagne très brève, tant au premier qu'au second tour, le discours de la majorité relative sortante, amalgamant LFI et RN. Alors si, effectivement, depuis le 7 octobre, il y a eu certaines individualités de LFI qui ont un discours relativement problématique, beaucoup, quand même, restaient, je vais dire, dans une logique, on va dire, républicaine. Première chose, le Conseil d'État a toujours considéré, et c'est important, que les 4 forces de la gauche, soit le Parti Socialiste, les écologistes, le Parti Communiste et LFI, les a toujours rangés dans la catégorie gauche. Quand le Conseil d'État, en revanche, a toujours rangé le FN, maintenant RN, dans la catégorie extrême droite. Ça change beaucoup de choses. Alors effectivement, il y a l'hypothèse de cette exclusion d'un gouvernement pour faire un gouvernement entre guillemets d'union nationale avec, on va dire, effectivement la gauche, exclusion LFI, et on va dire le centre droit de la majorité relative sortante. Et là, effectivement, Yael Braun-Pivet, au contraire d'un François Bayrou, n'a pas évoqué les LR historiques, hein, je ne parle pas des LR
sciotistes.
Sciotistes, alliés, tout le monde le sait, hélas, avec le RN. Encore une fois, on est proche de la majorité absolue, ce qui changerait la donne. Mais j'ose croire que les socialistes, ce n'est pas le cas d'Olivier Faure, qui a toujours un discours d'union, mais Glucksmann, parle des gens adultes. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifierait que parmi les adultes, il exclurait LFI. Donc, cette individualité, qui par ailleurs n'est pas socialiste, mais qui est proche des socialistes avec ce micro-parti Place Publique, prônerait de façon implicite cette alliance. Moi, cette alliance que je considère contre nature aurait des effets délétères. Pour quelle raison ? Parce que le peuple de gauche, il en existe toujours un, même si, en termes de voix, il est toujours derrière le RN, 1,5 million de voix, puisqu'on le sait, le RN est arrivé à 10 millions, plus de 10 millions de suffrages exprimés. Ça désespérait plus encore le peuple de gauche, qui se sentirait absolument trahi, qui a fait résistance, encore une fois, grâce à ce front républicain qui, quand même, il faut le constater, s'étiole de plus en plus, et serait, pour beaucoup, décidément, dégoûté de la politique, et pour beaucoup, s'abstiendrait.
Alors, bon, ça, ce sont les discussions politiques qui ont lieu, qui ont commencé et qui vont se poursuivre sans doute dans les jours et les semaines à venir. On va revenir un peu avec toi sur les règles du jeu et qu'est-ce qu'elles permettent aujourd'hui dans cette situation où il n'y a pas de majorité absolue. Alors d'abord, l'élément qui occupe ces jours-ci, c'est la question du Premier ministre et de qui Emmanuel Macron nommera-t-il Premier ministre. Est-ce qu'il y a des règles là-dessus, Julien, ou est-ce que tout ça, c'est de la pratique ? Il y a une pratique qui était de nommer le chef de la majorité ou de l'opposition, enfin en tout cas du groupe parlementaire le plus important. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est écrit sur cette question-là de la nomination du Premier ministre ?
Alors l'article 8, en son premier alinéa, le second concerne la nomination des ministres seulement. L'article 8 concerne la nomination du Premier ministre et est relativement vague. C'est ce que l'on appelle, les conseillers, un pouvoir propre. Du président de la République. Qu'est-ce que veut dire pouvoir propre ? C'est que ce décret, contrairement aux autres, il y a quelques autres exceptions, contrairement aux autres, ce décret n'est pas contresigné. Je précise, pour qu'un décret entre en application, il faut non seulement qu'il soit effectué par le président de la République, ou dans d'autres occasions le Premier ministre, et que ce décret soit contresigné par le chef du gouvernement. Or, ce n'est pas le cas pour cet article et d'autres, comme on l'a vu, la dissolution. Dit autrement, il est absolument libre. C'est un pouvoir qu'il détient, qui pourrait être utilisé comme un certain pouvoir de nuisance. Première chose. Seconde chose, aucun délai n'est prévu par cet article 8 pour que le président nomme un quelconque Premier ministre.
Donc il peut attendre le temps qu'il veut.
C'est ce qu'on entend de plus en plus, c'est-à-dire après les Jeux Olympiques, ce qui nous ramènerait à la fin août, début septembre. Gabriel Attal demeure en fonction. La démission qui a été donnée hier, c'est la tradition républicaine. Ça ne veut rien dire. Il a été aussitôt renommé Premier ministre.
Donc, en attendant, Gabriel Attal reste Premier ministre, Gérald Darmanin reste ministre de l'Intérieur et tout continue dans les ministères comme avant ?
Oui, sauf que, comme l'on le dit, il gère les affaires courantes. Il ne peut plus y avoir de projet véritablement politique, première chose. Et les députés se réunissent le 18 juillet, mais il ne va pas y avoir de session extraordinaire. Donc, ils sont ensuite en vacances, tout simplement. Bon. Et je ne vois pas, alors il y aurait possibilité que maintenant, il y ait un renversement par motion de censure de Gabriel Attal. À mon avis, on fait un petit peu de la politique fiction, hein, on est obligé de le faire. Bon, il semblerait que Macron prenne tout son temps. Et effectivement, je le répète, rien dans l'article 8 ne donne de délai. Alors, par rapport à l'autre aspect que tu as évoqué, la tradition veut effectivement que le Premier ministre soit issu du bloc, en l'occurrence ici de la gauche, et du parti arrivé en tête dans ce bloc. Dit autrement, normalement, le Premier ministre, mais là ce n'est que la pratique, rien n'est prévu dans la Constitution, devrait être issu du parti le plus, mouvement le plus influent, soit LFI. Alors, la personne maintenant de Mélenchon, depuis 2022, ne fait pas consensus, mais ça pourrait être un LFI, entre guillemets, plus présentable, par exemple Corbière, qui a été réélu depuis le premier tour, ou d'autres. Ça pourrait pas être François Ruffin, parce qu'on l'a vu, François Ruffin, comme Alexis Corbière, ne sont plus, et pour cause, à LFI. Donc le paysage politique s'est bouleversé en 3 semaines depuis la dissolution.
En tout cas, Emmanuel Macron peut faire ce qu'il veut. Il y a une pratique, comme
Emmanuel
tu l'as dit,
Macron
mais il fera ce qu'il
peut
voudra.
Faire tout ce qu'il veut, mais attention. S'il nommait, par exemple, un Premier ministre, une Première ministre issue de la coalition Ensemble, avec les trois forces, encore une fois, Renaissance, l'UDI et le Modem, ce Premier ministre serait aussitôt exposé à une motion de censure, avec les forces hétéroclites, tant de gauche, de droite que de l'extrême droite.
Alors, peut-être on le rappelle, motion de censure, c'est un texte qui est proposé par n'importe quel des groupes, et qui, s'il réunit la majorité des absolue des voix, permet de virer le gouvernement dans sa totalité. C'est ça, Julien Juitelli, je rappelle que tu es maître de conférence en droit constitutionnel et que c'est à ce titre que tu nous donnes toutes ces lumières.
Lumières, n'exagérons pas, je ne suis pas omniscient. Juste un petit correctif. Tout groupe ne peut pas déposer une motion de censure. Il faut à peu près un dixième des membres composant l'Assemblée nationale, pas à peu près exactement, soit 58 députés. Dit autrement, par exemple, les LR Ciotistes, je crois que c'est une petite quinzaine, qui peuvent donc former un groupe. C'est le seuil en deçà duquel on ne peut pas former de groupe. Mmh. Il faut donc à minima 58 députés. Chose que peuvent faire, par exemple, les LR Canal Historique. Par ailleurs, je précise, relativement à l'article 49, en son troisième alinéa, il faut 289, soit la moitié plus une voix des membres composant l'Assemblée nationale. Des membres composés l'Assemblée nationale, non pas des membres présents. Je m'explique. Donnons un cas de figure. Émettons l'hypothèse qu'il y ait 400 députés présents à l'Assemblée nationale. 177 ne sont pas là, qui à la buvette, qui restait à la maison, etc. Que cette motion de censure soit adoptée par 250 députés contre 150. Elle ne passe pas parce que c'est les membres présents. Alors, l'intérêt pour le groupe qui aurait une majorité relative influente, c'est qu'on confondrait, d'ailleurs ils ne sont pas là, ceux qui ne votent pas la motion de censure, on confondrait ceux qui veulent voter la motion de censure avec les abstentionnistes. Mmh. Donc c'est ce qu'on appelle ici le parlementarisme rationalisé, qui est plus développé encore en Allemagne, qui lui bénéficie d'un scrutin proportionnel, peut-être qu'on en parlera.
On reviendra sur ça. Donc effectivement, tout gouvernement qui se mettra en place sera exposé dans tous les cas à cette motion de censure. Donc ça, c'est pour les risques. En attendant, qu'est-ce que, imaginons il y a une majorité relative qui, à qui Macron permet de nommer, de mettre en place un gouvernement, qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? On ne peut pas voter de texte de loi tant qu'on n'a pas une majorité absolue, mais qu'est-ce qu'on peut faire à l'Assemblée nationale avec un groupe qui serait autour de 200 députés, qui aurait un gouvernement de la même couleur politique ? Qu'est-ce qui est possible à la fois à l'Assemblée nationale et à la fois au gouvernement dans ce cas de figure où il n'y a pas de majorité qui se dégage ?
Alors si
absolue.
On peut voter à la majorité relative un texte, une proposition ou projet de loi, à la condition que les oppositions hétéroclites ne votassent pas contre ce projet de loi. C'est-à-dire l'alliance de toutes les positions. Parce que maintenant, avant, on était dans un système bipolaire qui a toujours été prévu comme cela, bloc de gauche contre bloc de droite. Maintenant, il y a tripolarité, voire quadripolarité, si on compte la droite. Bon, alors il y a majorité relative, on l'a vu par rapport aux deux exemples précédents, Michel Rocard 1988, les différents gouvernements qui se sont succédés en 2 ans depuis 2022, c'est possible. Mais moi, mon hypothèse, encore une fois, c'est de la politique fiction. Sur la mesure la plus emblématique que les quatre mouvements de gauche ont présenté à la va-vite, et ils étaient bien obligés, parce qu'il n'y avait que 3 semaines pour aller au premier tour depuis le 7,
depuis le 7 juin,
merci. La mesure la plus emblématique, c'est l'abrogation de la loi relevant le seuil de la retraite à 64 ans. La loi passée, tout le monde le sait, au 49 alinéa 3, est passée de très près, à quelques députés près, si je ne me trompe, seulement 8 députés. Il manquait 8 députés pour que le gouvernement soit censuré, donc à la majorité absolue, comme je l'ai expliqué. Là, ici, c'est l'article 49, deuxième alinéa. Il y aurait le risque que cette mesure emblématique ne passe pas. Je ne vois pas les trois forces du groupe ensemble la voter, cette loi. LR a bossé la motion de censure, donc était censé être contre la loi retraite, mais c'était un positionnement politicien. Sauf quelques rares LR, effectivement, étaient opposés à cette loi. Le RN a voté pour des raisons purement politiciennes cette loi. Il peut y avoir alliance hétéroclite pour faire tomber cette loi. Après l'éventuelle utilisation par le gouvernement, par le Premier ministre, pour être plus exact, de l'article 49 alinéa 3. Donc, par exemple, je me répète, politique fiction, mais cette mesure emblématique, il est probable qu'elle ne passe pas. Donc, en fait, il est probable que sur d'autres lois emblématiques, par exemple, la réinstauration de l'ISF qui avait été supprimée dès 2017 par Macron, alors même que la droite n'a jamais osé le faire, ça m'étonnerait qu'elle passe également. Donc, ces deux, sur ces trois mesures emblématiques, sont en danger. Il y a possibilité de gouverner en partie par décret.
Qu'annonce déjà une partie du Nouveau Populaire, dire on prendra des décrets pour les mesures d'urgence. Qu'est-ce qui peut être fait avec ces décrets ?
C'est un peu s'enthousiasmer trop vite. Alors, par exemple, sur l'assurance chômage, là, effectivement, ce n'est pas du domaine de la loi, c'est du domaine de décret. Là, en revanche, effectivement, on pourrait repousser ce texte, qui est quand même plus que problématique et qui est très sévère pour les chômeurs, en tant que, si je ne m'abuse, ça fait la troisième réforme par décret, parce que normalement, ce sont les partenaires sociaux, qui tous, y compris jusqu'au MEDEF, n'aiment pas cette façon de gouverner de la part d'un pouvoir de plus en plus vertical, qui ne le sera plus depuis donc avant-hier. Mais, enfin, il y a ce qu'on appelle le domaine de droit commun, qui est l'article 37, et le domaine réservé à la loi, l'article 34.
Bon, mais
C'est-à-dire qu'il y a un domaine de compétences législatives limitativement énuméré qui donc ressort de la loi, et tout le reste, le domaine résiduel, ressort du pouvoir du règlement. C'est-à-dire,
et donc peut être repris par décret.
Par décret. Mais malgré tout, sur les mesures politiques les plus importantes, je ne vais pas décliner parce qu'il y a plusieurs matières qui relèvent de la loi. Donc, par exemple, la loi pénale, pour ne donner qu'un exemple, je ne vais pas tout décliner. C'est difficile quand même de gouverner par décret. Les réformes sociales, la loi en retraite, c'est bien de la compétence législative. Donc là, par exemple, par rapport à l'abrogation de la loi retraite qui est toute récente, ce ne serait pas possible par la voie réglementaire. Le Premier ministre ne pourrait pas la supprimer. On ne peut pas passer que par la voie législative, avec le danger que j'évoquais tout à l'heure, que cette réforme soit ne soit pas votée, soit, si le Premier ministre décide de passer par le 49 alinéa 3, qu'il soit censuré.
Alors, il y a autre chose qui se passe à l'Assemblée nationale de manière quotidienne, c'est le travail des commissions. Commissions qui ont des présidents, présidentes, des rapporteurs, etc. Ça va sans doute être ça aussi dans les jours à venir qui va être en jeu. Qui va présider la commission des finances, la commission machin et truc. Quel enjeu il y a là-dedans? On imagine que là aussi, ça va être compliqué, qu'il va y avoir des équilibres à trouver, tel groupe prend telle présidence de commission, tel autre prend tel autre. Quel est l'enjeu derrière tout ça et quelle importance ça peut avoir pour la nouvelle législature, Julien Giudicelli ?
Alors les deux commissions les plus importantes, c'est la commission des lois et la commission de finances. La commission de finances, depuis une pratique instaurée par Nicolas Sarkozy, c'est pas mon saint préféré dans le calendrier alternatif. Là, en l'occurrence, cette pratique est plutôt intéressante. Mais ça signifie qu'il est dévolu, ce poste de président de la Commission des Finances, à l'opposition et au groupe en tête dans l'opposition. Jusqu'à avant-hier, c'était Coquerel, parce que c'était le groupe le plus dans l'opposition de gauche, c'était le groupe le plus influent.
Éric Coquerel, donc de la France Insoumise.
De la France Insoumise, donc président de la Commission des Finances. Et là, ça serait obligatoirement un député RN. Ensuite, Et d'ailleurs, il faut dire que la commission de finances, c'est là où se prépare en amont le plus le travail. On est souvent choqué par le fait que beaucoup de députés soient absents dans l'hémicycle, mais en fait, la réalité du travail, c'est en commission, qui est beaucoup moins visible pour le spectateur et les lecteurs lambda.
Donc ça veut dire notamment les questions de budget, de financement,
absolument, etc. Absolument.
Et dans ces commissions, quel est le rôle d'un président ou d'une présidente? Quelle importance il a pour le travail de la commission? Est-ce que ça veut dire qu'il a le dernier mot?
Alors, tout d'abord, dire que les membres en commission... Les membres siégeant dans les différentes commissions, donc encore une fois, les plus importantes sont la commission des lois et la commission de finances, sont désignés à la proportionnelle. Première chose. Et donc, ils votent dans le cadre des différentes commissions pour le président, la présidente de ces dites commissions. Alors, le travail le plus important, c'est le travail des amendements. Les amendements peuvent être bloqués, je vais un peu vite pour vulgariser, effectivement, par le président, par la présidente de la commission. Et les amendements, qui les utilise en premier, c'est l'opposition. Des amendements, on l'a vu aussi, des amendements peuvent être déposés par les députés faisant partie du groupe majoritaire, ajoutant ou retirant au projet de loi, qui est là de l'initiative du Premier ministre, puisque 90% des lois, en fait, sont de l'initiative par ce qu'on appelle un projet de loi du Premier ministre. Mais ce sont les députés qui la votent ou la refusent. Bon. Donc, effectivement, et on l'a vu dans l'avant-dernière législature où la présidente de la commission des finances était Yaël Braun-Pivet, avant qu'elle ne devienne donc présidente de l'Assemblée nationale en 2022. On l'a vu, et c'est un passage sévère, où à un moment donné, elle a été piégée par Adrien Quatennens, qui à l'époque était plus convenable, qui disait finalement, en substance, finalement on ne sert à rien, et puis elle répond, effectivement. Bon, elle avait beaucoup moins d'expérience à cette époque.
Donc en tout cas, c'est un enjeu quand même, ces nominations-là.
C'est un enjeu. Mmh. C'est un enjeu, mais ça ne modifiera pas les équilibres politiques. Mmh. À part quand même cette présidence très importante avec la présidence de la commission des lois, qui est là, normalement, échoirait au bloc de gauche, avec cette présidente très importante, dont, depuis la pratique Sarkozy, instaurée par Nicolas Sarkozy, elle devrait échoir au groupe le plus important, elle échoira au groupe le plus important d'opposition, c'est-à-dire manifestement et résolument le Rassemblement National.
Alors tout ça nous amène à nous interroger sur ce que peut le Parlement, l'Assemblée Nationale, dans un régime comme celui de la Ve République. C'est vrai qu'on a pris l'habitude ces dernières années que le Parlement n'ait pas un grand rôle parce que majorité absolue et donc volonté politique venant du haut, venant du président de la République ou du Premier ministre et possibilité de faire appliquer cette volonté avec tous les députés qui votaient comme un seul les textes de loi. Là, ça ne sera pas le cas. Ça nous fait penser à d'autres systèmes politiques, comme en Allemagne ou en Italie, où il y a une force du Parlement qui est plus importante, et donc des débats qui ont lieu dans ce Parlement, et des équilibres politiques qui peuvent y être trouvés en dehors du gouvernement ou du président de la République. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui se passe dans ces autres régimes politiques, et est-ce que on pourrait aller, est-ce que la Ve République française peut redonner de la place et du pouvoir à l'Assemblée, et l'Assemblée redevenir un lieu de débat où se feraient les décisions à partir de la recherche de coalition, d'accord entre les uns et les autres? Est-ce que c'est possible, Julien Giudicelli?
Alors tout d'abord, il faut préciser que la Ve, contrairement à ce que beaucoup de médias disent en parlant de régime présidentiel, est un régime parlementaire. Mais j'ajoute que c'est un régime parlementaire atypique. Ou tout d'abord, par rapport à la forme du scrutin majoritaire uninominal à deux tours, contrairement au Royaume-Uni où c'est à un tour. Au Royaume-Uni, le RN aurait eu la majorité absolue. Donc c'est un scrutin...
Majorité relative ?
Non, majorité absolue. Majorité absolue. Bon, alors même qu'il aurait eu le même étiage, c'est-à-dire, 35% majorité relative, et les oppositions auraient été écrasées, chose que l'on voit, les travaillistes ont écrasé avec une majorité absolue très large, les conservateurs qui étaient au pouvoir depuis plus d'une dizaine d'années. Majorité relative, majorité absolue qui donne effectivement un pouvoir très relatif à l'Assemblée nationale, parce que tu as dit que la majorité vote comme un seul homme. On les qualifie souvent, ces députés issus de la majorité, de députés godillots. Et c'est un régime parlementaire atypique, alors que, en Europe, à une exception près, tous les pays ont adopté un régime parlementaire. Alors, très rapidement, je définis ce que c'est un régime parlementaire. C'est un régime dans lequel il y a bicéphalisme en termes techniques, c'est-à-dire un chef d'État, un chef de gouvernement. Contrairement au régime présidentiel où il n'y a pas de chef de gouvernement, sur le papier, il n'y a pas de gouvernement. Mmh. Première chose, et plus important, le chef de l'État dans un régime parlementaire peut dissoudre l'Assemblée nationale, on l'a vu en France, alors que le président des États-Unis, régime présidentiel, ne peut dissoudre aucune des deux assemblées, la Chambre des représentants ou le Sénat. Et inversement, dans un régime présidentiel, aux États-Unis, ni le Sénat ni la Chambre des représentants ne peuvent renverser politiquement, rien à voir avec les impeachments qui relèvent de la responsabilité pénale, ne peuvent renverser politiquement, par exemple aujourd'hui, Joe Biden. Mmh. Alors, par suite, relativement à l'autre question que tu poses sur l'Allemagne et l'Italie, ce sont tout d'abord des régimes proportionnels. Le parti le plus influent n'atteindra jamais la majorité absolue, soit 50% des suffrages exprimés, plus une voix. C'est un cas d'école absolument impossible. Donc, ils sont obligés de gouverner par coalition. On voit, par exemple, en Allemagne, que qui gouverne actuellement, ce sont les sociodémocrates du SPD, les Grünen, c'est-à-dire les Verts, et le Parti libéral de centre-droit. Donc, il y a toujours eu une coalition, et il y a même eu ce que les Allemands appellent une grosse coalition, pardonne-moi pour l'accent, c'est-à-dire allant de la gauche à la droite. Chose qui, dans la tradition politique française, serait inouïe. C'est pour ça que les propositions, par exemple, de François Bayrou, disant les socialistes, entre guillemets, responsables, qui sont des sociodémocrates, juste que les LR, on est obligé de dire canal historique dorénavant de Laurent Wauquiez, qu'elle, même si c'est maintenant, les socialistes sont devenus centre-gauche, quel rapport entre le centre-gauche dirigé actuellement, enfin le PS dirigé actuellement par Olivier Faure, et un Laurent Wauquiez, qui quand même, dans ses mesures, est plus que très droitier. C'est pas Éric Ciotti, mais il est quand même très droitier. Mmh.
Mais alors qu'est-ce qui fait que, en Allemagne, par exemple, ça fonctionne et que ces gens-là arrivent à travailler ensemble? C'est une culture politique qui est différente?
C'est une culture politique différente, c'est une tradition politique différente, et en Allemagne, comme en Italie, c'est un scrutin proportionnel, intégral.
Hein. Donc il n'y a pas le choix, ça veut dire qu'il n'y a pas le choix, il faut forcément...
Il
n'y
a pas le choix pour avoir une majorité, il n'y a pas le choix, sauf si un bloc, ça s'est vu à droite comme à gauche, je reviendrai sur la droite aujourd'hui, sauf si un bloc, avec les différents partis qui le composent, a la majorité absolue. Sauf que des petits partis, c'est assez paradoxal, peuvent basculer d'un camp à un autre. Mmh. Comme cela s'était vu sous la 4e et sous la 3e République, et faire tomber une coalition pour passer à une autre. Alors je parle du gouvernement actuel, qui par tous les journaux, c'est assez étonnant, est appelé de centre-droit, y compris un journal social-démocrate influent comme La République. Bon, c'est l'alliance ici de Fratelli d'Italia, Frères d'Italie, de la Ligue, donc de Giorgia Meloni.
D'extrême droite.
D'extrême droite, descendant direct du MSI, c'est-à-dire des néo-fascistes dès 1946-47, dirigés par Almirante. Ce sont les descendants directs. Ils ont ripolliné. À un moment donné, Alleanza Nazionale, dirigée par Gianfranco Fini, se sont amendés, se sont devenus des post-fascistes, tout le monde est post en Italie. Et il est vrai que, alors que c'était le bras droit d'Almirante, l'espoir des néo-fascistes, il est vrai qu'il est allé se recueillir devant le mur des lamentations et, couper définitivement avec le régime fasciste de Mussolini. Ça aurait été plutôt un RPR. Mais ce parti s'est à un moment donné scindé avec les Frères d'Italie, Fratelli d'Italia, menés par principalement Giorgia Meloni. Alors il faut savoir qu'en Italie, quand il y a une majorité introuvable, il y a on l'a entendu dans les médias, la possibilité d'un gouvernement technique. Ça a été utilisé plusieurs fois avec Mario Draghi. Là, c'était technique politique, avec gouvernement purement technique.
Qu'est-ce que ça veut dire, un gouvernement technique ?
C'est-à-dire qu'il n'est pas composé de personnalités politiques. Mario Draghi n'est pas un politique, c'est l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, de la BCE, ce n'est pas un politique.
Qui fait donc une politique qui correspond à ce qui paraît normal, donc souvent une politique libérale
avec une alliance,
de centre-droit.
Avec une alliance, partant en Italie, du bloc de gauche social-démocrate jusqu'à la Ligue, qu'on peut dire maintenant d'extrême droite, ce qui n'était pas le cas de la Ligue du Nord sécessionniste fondée par Umberto Bossi. Donc on va des sociaux-démocrates à la Ligue, lors du gouvernement de Mario Draghi, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Avec, bon, il y a eu plus technique, alors plus technique, c'était composé des gouvernements d'experts et non pas d'hommes ou de femmes politiques. Actuellement, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ce pseudo-centre-droit, ce sont l'extrême droite de Giorgia Meloni, c'est ensuite la droite berlusconienne, et c'est enfin la Ligue. Alors ce qui est très intéressant, c'est que lors du gouvernement Union Nationale Technique de... on l'appelle Super Mario, de Mario Draghi, tous se sont alliés, à l'exception de Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni n'a pas voulu participer de ce gouvernement, elle faisait 4%. Les élections législatives suivantes, elle fait 24-25%. Mmh. Et elle s'allie avec une autre vraie extrême droite, la Ligue, et avec un parti de droite. Héritier de Berlusconi. Et pour finir, celui qui a le premier fait cette alliance n'est autre que Berlusconi au début des années 90, quand cet homme, ce chef d'entreprise, très contesté, a fait ce qu'on appelle la discesa in campo. Et il est descendu dans l'arène et de façon, je dois dire, très intelligente au niveau de l'intelligence politicienne, a rallié la Ligue du Nord, à l'époque plutôt sécessionniste, et Alliance Nationale.
On
donc,
pourrait imaginer que Macron...
gouvernement alliant la droite classique avec l'extrême droite.
On pourrait imaginer Macron faire quelque chose comme ça avec un gouvernement soi-disant technique qui essaye d'attraper un peu partout...
Je ne vois pas cette hypothèse réalisable parce que ce n'est pas la tradition française. C'est assez typiquement la tradition italienne. Ça n'a pas été le cas en Allemagne. C'est plutôt parce que, franchement, l'Italie a été plus que plusieurs fois en situation de crise politique. Mmh. Cette situation est évoquée, je ne la vois pas.
Et donc, qu'est-ce qui te paraît probable dans cette situation française, avec la tradition qu'on a, vu, enfin, on a l'air de, ça donne l'impression d'être une impasse, là.
Alors, soit, effectivement, il y a le bloc de gauche, le nouveau Front Populaire, qui gouverne avec les difficultés que j'ai évoquées, soit il y a un gouvernement dit, entre guillemets, d'Union Nationale, qui exclut les soi-disant extrêmes, puisqu'elles sont amalgamées, entre LFI, qui serait donc l'extrême gauche, et le RN, extrême droite. Donc là, bon, on serait proche de la majorité absolue, puis après on prend divers gauche ou divers droite, et on peut faire effectivement un gouvernement national. Mmh. Là encore une fois, on essaie de lire dans la boule de cristal assez obscure, et on ne sait pas si ce sera le bloc de gauche ou ce gouvernement national qui, au niveau démocratique, serait quand même insensé et risquerait vraiment... d'agacer plus que cela les électeurs et d'être un marche-pied pour l'élection présidentielle à Marine Le Pen.
Celui qui est discret ces derniers jours, mais qui n'en garde pas moins un pouvoir important, c'est Emmanuel Macron. Quel pouvoir il lui reste ? On a entendu parler de l'article 16 de la Constitution, des pouvoirs étendus qu'il pourrait décréter. Peut-être qu'il peut nous rappeler de quoi il s'agit. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres choses que peut faire Emmanuel Macron dans cette situation, à part nommer un Premier ministre qui saura réunir le plus de monde à l'Assemblée ? Comment tu vois un peu ça ? Sa position.
Alors, premier pouvoir propre, on vient de l'évoquer, c'est l'article 8 en son premier alinéa, c'est-à-dire la nomination du Premier ministre. On l'a vu aussi, dissolution. Dissolution, les seules formalités, c'est de consulter les deux présidents des assemblées respectives, que sont l'Assemblée nationale et le Sénat. On a vu dans quel scénario il a convoqué Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet, et Yael Braun-Pivet a demandé de dialoguer avec lui, et il a dit « c'est bon, je viens de vous consulter ». Finalement, il a accordé ce bref dialogue avec Yael Braun-Pivet. Cela signifie qu'on les met devant le fait accompli. Ce n'est pas le cas de l'article 11, soit du référendum, qui doit être contresigné par le Premier ministre. Ce n'est pas le cas de l'article 13 qui dispose que le chef de l'État nomme aux emplois civils et militaires. On constatera que à la va-vite, Emmanuel Macron a nommé beaucoup de préfets, d'autres personnes à des hauts grades civils et militaires, et que le RN a fait polémique là-dessus. Bon, donc là, il faut nécessairement un accord entre le président de la République et le Premier ministre. L'article 16 serait un pur scandale politique.
Qu'est-ce qu'il permet, l'article 16 ?
L'article 16, il donne des pouvoirs exceptionnels en temps de crise, je me permettrai de le lire, hein. En temps de crise, qui concentre dans les mains du chef de l'État le pouvoir réglementaire, par exemple les décrets, et le pouvoir législatif. C'est une dictature au sens non péjoratif du terme, au sens romain du terme. De la Rome de l'Antique, bien sûr, de l'Antiquité. Le truc, c'est que la chose intéressante, c'est dictature, qui veut dire ducere, qui veut dire soit conduire, soit dire. Si on remonte à l'étymologie, elle était à temps. 6 mois, si je ne me trompe pas. Là, il n'y a pas de limite maximale de temps. Alors, si tu me permets, je lis l'article 16.
Alors, on n'a plus beaucoup de temps.
On n'a plus beaucoup de temps. Je le fais très vite. Hein. Lorsque l'intégrité du territoire est menacée, la parole de la France relativement aux traités internationaux est menacée. Donc, l'intégrité, on pense à la débâcle, c'est pour ça que le général de Gaulle le voulait, à la débâcle de la campagne de France en 1940. Lorsque les institutions et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le président de la République peut, par décrétation de l'article 16, exercer les pouvoirs exceptionnels. Il n'y a pas, encore une fois, puisque c'est un pouvoir propre, il n'y a pas de possibilité de l'empêcher. Mmh. C'est juste des consultations. Ensuite, le président du conseil, le conseil constitutionnel, donne un avis. Un avis, ce n'est pas une décision qui, depuis la réforme Sarkozy de 2007, cet avis doit être publié. Et ensuite, il peut être saisi plusieurs fois. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais il n'y a aucune limite de temps. Ce serait absolument scandaleux. Je veux dire, l'accession, maintenant refusée, du RN au pouvoir. C'est la démocratie, ce n'est pas une crise politique qui menace, selon les énoncés que j'ai dit tout à l'heure de l'article 16, qui menace gravement la République. Il a été évoqué discrètement que Macron, pendant la crise de la pandémie, utilise l'article 16. Bon, on a quand même très rapidement évacué l'hypothèse. Ce serait un scandale. Purement un scandale démocratique.
Peut-être une dernière question très rapidement. Cette constitution de la Ve République, on voit à la fois qu'elle quand même maintient un écart entre ceux qui gouvernent, ceux qui décident et la population, mais dans le même temps qu'elle, jusque-là, a ralenti l'accession de l'extrême droite au pouvoir. Donc je ne sais pas comment on peut peser les avantages et les inconvénients. Est-ce que juste ce n'est pas le moment de la réformer, de faire des choses? Alors François Ruffin a proposé le référendum d'initiative citoyenne qui avait été une des revendications des Gilets jaunes. Est-ce que ce n'est pas le moment de retravailler cette constitution pour rapprocher les citoyens, les citoyennes du pouvoir?
On peut critiquer la Ve République, et je la critique résolument, mais il est absolument impossible aujourd'hui de la réviser. Pourquoi ? Parce qu'il faut tout d'abord que les deux assemblées votent en termes identiques le projet de loi déposé par donc l'exécutif, et il faut ensuite deux hypothèses, les deux assemblées soient réunies en congrès et les députés et sénateurs votent ensemble avec une majorité des 3/5, ou le président de la République par référendum, mais celui-là c'est pas le référendum de l'article 12, c'est l'article 89, convoque les électeurs pour qu'ils décident in fine. Mais la première étape, c'est un vote en termes identiques, ça veut dire pas d'amendement, de ce projet de loi, tant par les députés que par le Sénat. Hypothèse hautement improbable.
Merci beaucoup Julien Giulicelli pour toutes ces réflexions. Je rappelle que tu es maître de conférence en droit public et donc spécialiste de droit constitutionnel. On verra ce qui va se passer dans les semaines à venir et peut-être on te réinvitera pour une réflexion à nouveau sur tout ça. Merci beaucoup à toi.
Avec très grand plaisir et merci pour cette invitation.
Croque le bonbon vaudou. À Allons-nous tout ensemble au palais.
Allons tous ensemble au palais.
Allons-nous tout ensemble au palais.
Allons tous ensemble au palais.
Allons-nous tout ensemble au palais.
Allons tous ensemble au palais.
Allons-nous tout ensemble au palais.
Allons tous ensemble au palais.
Dans nos rivières souterraines.
Crocodile sacré aux couleurs primaires. Manche de réglisse sur nos haches de guerre. Quelque part entre Dahomey et Mafadjine, c'est le périple. Nougatine, sagué, chamallow, barbelé, manioc, épices. Piment, piment. Piment, piment. Piment, piment.
Croque le bonbon vaudou.
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 Est-ce du tac ou bien du sucre glace au visage bleuté des statues? Nos bouilles d'ange à double face, créoles, so knife. Nos corps sont des tambours, nos voix sont des fanfares, voraces. Égérie de pacotille, le cœur planté sur des canifs.
Et on termine avec Bonbon Vaudou qui sera en concert ce vendredi 12 juillet lors du Festival des Hautes-Garonne à ce nom dans le parc Palmaire où la Clé des Ondes sera également présente.
Des morts, la brise de la Bastille.
Pour vos fous qui cherchent la dragée la plus courte vers le plaisir. Cric, tu croques. Cric et croque.
Cric et croque.
Nos programmes pour la soirée pour ce soir, 19h, il y aura la voix off, sa série d'été. Ce soir, premier épisode consacré à Jean Zay, homme politique radical de gauche, ministre de l'éducation nationale, notamment juste avant la Première Guerre mondiale, dont il est aussi question ces jours-ci pour son comportement d'union à l'Assemblée, à la Chambre, à l'époque, sous la 4ème République. Et à 20h, ce sera Yapou, toutes les musiques et un pot pourri de chansons sélectionnées par Jean-Michel. Pour l'heure, il est 13h sur la Clé des Ondes et comme chaque mardi, c'est l'heure d'Histoire de voir, Histoire au pluriel, qui commence lui aussi sa série de rediffusion d'été.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Eh bien, nous nous retrouvons.